France Culture.
On se retrouve là, devant l'océan, les yeux sur l'horizon. On sait bien que derrière, il y a l'Amérique. Mais on n'y pense pas tout le temps. On peut laisser cette ligne d'horizon, cette ligne de disparition, nous faire croire, pour de faux, à l'infini. L'infini. Pourquoi, alors qu'il définit l'absence de fin, nous arrête-t-il ce mot, infini ? Entre vertige et passion, il nous attire ou nous repousse, tant il nous magnifie ou nous diminue. On a l'habitude de s'imaginer l'infini en grand. Au-delà de notre ciel, rond de nuages, on sait qu'il y a le vide de l'espace, des nuées de satellites. 7500 en 2023 pour être exact. Puis du vide encore, la Lune pas loin, 384 000 km quand même, du vide encore, beaucoup, beaucoup, énormément, infiniment. Alors l'effort est vain, de tenter de nous représenter ce qui se trouve au-delà de ce que l'on perçoit, au-delà de ce que l'on peut physiologiquement percevoir. Coincés que nous sommes, dans un rapport d'espace et de temps, la disproportion nous arrête, parce qu'il nous est impossible d'établir un rapport de grandeur. D'accord, 380 000 km jusqu'à la Lune, très bien. Mais alors, ça fait combien de Paris-Marseille, ça ? En réalité, je vais vous le dire, 475. Un voyage de 158 jours, en continu, dans une voiture roulant à 100 km/h. Alors, oui, on dirait un problème de mathématiques. Et avec lui, les mauvais souvenirs des bancs d'école, des cours de sciences auxquels on ne comprend rien. Et pourtant, en forçant quelque peu notre envie de mener un exercice de pensée, la physique se révèle à nous comme l'une des dernières terres d'exploration possibles. Des mondes impensables et infinis. Dans ces 4 épisodes, j'ai eu envie de plonger dans cet impossible, ces infinis. De mieux les comprendre, en savoir un peu plus sur la manière dont ils s'organisaient, pour tenter d'explorer le réel à une autre échelle, plus vaste que la nôtre. Et puis, j'étais curieux de savoir ce qu'ils faisaient à celles qui travaillent chaque jour à des échelles inimaginables, quantiques, cosmologiques, des physiciennes. Trop peu nombreuses encore dans la communauté scientifique, j'ai souhaité que pour une fois, ce soit un regard féminin qui se pose sur l'univers entier dans toutes ses échelles de grandeur. Alors on va tenter d'organiser un peu tout ça. Et pour une fois, on ne va pas partir dans l'espace. Enfin, pas tout de suite. On va plutôt s'enfoncer au plus profond de la matière. On va le faire de manière simple, en essayant de ne pas se perdre en chemin, même si, je vous préviens, il est si grand qu'on risque vite de ne plus voir la trace de nos pas dans le sable. Tout commence alors sur une plage. Il y a cet océan, au loin, vaporeux, flou, dans sa limite avec le ciel. Mais avant que notre regard se perde loin, baissons la tête et regardons nos pieds. Du sable. Des milliers, des millions, des milliards de grains de sable. Commence déjà alors un exercice un peu fin de se représenter les nombres, mais aussi de les dire. Dans ces documentaires, vous entendrez des puissances de 10. C'est très simple, les puissances de 10. Elles représentent des échelles de grandeur. Je me penche pour vous et j'attrape un grain de sable. Il mesure 1 mm, c'est-à-dire 1 millième de mètre. 0,001 mètre. C'est 1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Retenez bien ça. Alors maintenant, je le rapproche de mon œil. Je le rapproche de mon œil jusqu'à en percevoir les différentes facettes et reflets. Jusqu'à avoir l'impression qu'il fait la taille d'un rocher. Et je rentre dedans. Voilà où commence le voyage, dans un grain de sable. Pour se représenter l'infiniment petit, je vous propose qu'on joue aux poupées Gicogne. Vous savez ? Ces poupées russes. Dans ce grain de sable, on pourrait mettre 10 cheveux. Le diamètre d'un cheveu mesure 1 fois 10 puissance moins 4 mètres. Si je rentre dans l'un de ses cheveux, je vois que dans le diamètre de ce cheveu, on pourrait placer 10 globules rouges. On est à 10 puissance moins 5. Que dans ce globule rouge, on pourrait placer 100 virus H1N1. On est à 10 puissance moins 7. Accrochez-vous, on va accélérer gentiment. Et pour ce faire, on coupe cette ambiance de mer, de vent, on quitte cette plage, pleine de cheveux, de globules rouges, et on marche vers Nare Lorenzo Martinez, chercheuse au laboratoire d'Annecy de physique des particules, dépendant de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules. Au-delà de l'atome, épisode 1, l'infiniment petit, du grain de sable au monde quantique. Tony Ayer, Gilles Mardi-Rossian.
Bonjour Nare.
Bonjour Tony.
Alors là j'arrive de la plage, il s'est mis à pleuvoir, on s'est abrité sous un grand pin. Et je vous ai ramené mon grain de sable. Est-ce que je peux vous le montrer?
Oui. Ouais.
Alors, donc j'ai ce grain de sable, pas évident à mettre dans une poche, facile à perdre. J'aimerais bien comprendre à quelle échelle de taille se trouve ce grain de sable et comment ça peut s'organiser dans des échelles inférieures à ce grain de sable. Est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer par étapes comment est-ce qu'on peut descendre dans les étages de la matière?
D'accord, je peux essayer de faire ça. Effectivement, vous avez trouvé un très joli grain de sable, donc on peut le prendre. Alors, à vue de nez, je dirais qu'il fait à peu près 1 mm. Mmh. 1 mm, c'est, pour recontextualiser, c'est un millième de mètre. Donc c'est un mètre divisé en 1000 petits morceaux. Et on peut tout à fait descendre encore plus bas dans la matière. On ne verra pas à l'œil nu, puisque notre œil n'est pas capable de voir des distances très petites.
Alors, notre œil, il va voir jusqu'à quelle taille, à peu près?
Alors, on dit que l'œil est capable de voir jusqu'à un dixième de millimètre, donc notamment l'épaisseur d'un cheveu, c'est la limite de ce qu'on peut voir, et ça fait un dixième de millimètre.
Si on essaie de simplifier des codes, quelque part, de taille, on peut dire qu'un millimètre, c'est 1 fois 10 puissance moins 3, c'est ça?
Exactement.
Moins 3 parce qu'on va mettre 2 zéros après la virgule?
Exactement.
Et on met le 1
en troisième position. Tout à fait.
Et donc un dixième de millimètre, ça va être 10 puissance moins 4.
Exactement.
Okay.
10 puissance moins 4 mètres. Voilà. Donc là, on peut encore descendre. Donc mettons qu'on prenne un dixième du morceau de sable qu'on a coupé en 10 et on s'amuse à regarder ce qu'il y a dedans. Eh bien, encore 10 fois plus petit, on peut constater qu'il y a des cellules.
Donc 10 fois plus petite qu'un cheveu, d'accord.
Okay. Voilà. Là, on peut commencer à observer des cellules. D'ailleurs, quand on prend un microscope tout simple, qu'on peut trouver à l'école ou qu'on peut trouver dans des jeux pour les enfants, on peut déjà commencer à voir des cellules des cheveux notamment ou d'autres objets que vous avez sous la main. Et donc, on peut atteindre effectivement la taille d'une cellule qui est du coup un centième de millimètre.
Donc 10 puissance moins 5.
Exactement. Donc je peux continuer à descendre, regarder ce qu'il y a dans mes cellules. Et dans les cellules, il y a des chromosomes donc qui contiennent tout l'appareil génétique de l'objet que nous sommes en train de regarder. Mmh. Et ce chromosome, il fait une taille encore 10 fois plus petite que la cellule. Donc là, on est à, du coup, si vous avez suivi...
10 puissance moins 6.
Voilà, 10 puissance moins 6 mètres, donc 1 micromètre. Et là, on pourrait se dire, bah voilà, j'ai atteint la fin de la matière. Or, quand on regarde précisément ces chromosomes, on se rend compte qu'il y a encore une sous-structure à l'intérieur, que c'est encore composé de choses. On peut encore couper ce chromosome. Il va falloir le couper ce coup-ci assez fort pour pouvoir obtenir une structure qui s'appelle des atomes. Alors, en combien je vais devoir le couper? En fait, je vais devoir le couper en 10 000. Donc, je prends mon chromosome et je le coupe en 10 000 petits morceaux. Et là, je vais arriver à des atomes. Un atome, c'est la structure fondamentale de la matière. D'ailleurs, le mot atomos en grec, ça veut dire qu'il ne peut pas être coupé, qu'il est insécable. Puisque, en fait, les Grecs anciens, à l'époque, ils avaient fait une expérience de pensée. Ils s'étaient dit, que se passe-t-il si je prends un bout de bois et que je le coupe en deux? Puis que ce morceau que j'ai coupé en deux, je le recoupe en deux. Et ainsi de suite. Que se passe-t-il à la fin? Qu'est-ce qui me reste dans la main? Eh bien, ils se sont dit, à la fin, il doit y avoir une structure, une entité que je ne peux plus couper, pas à cause de la technologie que je n'ai pas, mais à cause du fait que c'est une entité élémentaire qui ne peut plus être coupée. Et ils ont appelé ça atomos, qui est insécable. Et donc, le nom qu'on a donné dans les années 1900 à cette structure s'appelait l'atome. On l'a appelé parce qu'on pensait que c'était effectivement la dernière entité qui ne pouvait plus être coupée. Mais, entre-temps, les savoirs ont évolué et on s'est rendu compte que finalement, l'atome pouvait être encore coupé. On a gardé le nom, mais en vérité, il n'est pas insécable.
Avant d'aller plus loin dans cette plongée, j'ai envie qu'on fasse un zoom inverse, et qu'on revienne un peu comme ça dans ce qui peut être visible, en tout cas qu'on puisse se représenter des structures. Est-ce que vous auriez une idée de comment se représenter ces échelles-là? Parce qu'en fait, quand on dit 10 puissance moins 4, moins 5, moins 6, très rapidement on ne peut plus s'imaginer.
C'est très difficile.
Diviser un cheveu en 10, ça peut aller.
Ouais.
Quoi qu'il ne faudrait même pas le diviser dans sa longueur.
Non,
il faudrait le diviser dans son diamètre, quoi, dans son épaisseur. Donc déjà, ça commence à être compliqué. Est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer, en changeant d'échelle, à quoi est-ce qu'on a affaire dans des rapports de structure?
On va prendre les choses dans l'autre sens et on va reprendre l'atome et s'imaginer que l'atome, c'est un stade de foot. Juste pour préciser, avant d'aller plus loin, il faut savoir que dans un atome, il y a un noyau, comme un fruit qui contiendrait en son centre un noyau. Et ce noyau, il est extrêmement petit. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, si mon atome, c'est un stade de foot, alors le noyau qui se trouve à l'intérieur serait équivalent à une aiguille plantée au milieu de ce stade de foot. Et les bords de stade, là où vous savez on peut courir autour, eh bien ça ce serait les contours de mon atome, là où se trouvent les électrons. Donc les électrons, j'en ai pas encore parlé. Donc c'est une particule élémentaire, donc ça veut dire qu'elle n'est pas divisible, donc pour le coup elle est insécable. Et cette particule élémentaire, elle est extrêmement petite. Elle fait une taille qui est encore 1000 fois plus petite que la taille de cet atome, de ce noyau d'atome. Et donc, finalement, si vous prenez votre aiguille, eh bien, on peut prendre un tout petit défaut. Imaginez un tout petit accroc dans le métal qui fait à peu près un millième de cette aiguille. Et ça, ça correspondrait à la taille d'un électron qui se trouve donc tout autour du stade. Ce qui est assez fascinant, c'est que donc cette aiguille qui est là, vous voyez, vous pouvez la voir, elle est vraiment petite. Hein. Si je la plante là, entre mon aiguille et le contour de mon stade qui est tout là-bas, eh bien, il n'y a absolument rien. C'est le vide le plus parfait.
C'est du vide.
Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est qu'un atome, c'est essentiellement du vide, puisque mon objet, mon noyau, contient pratiquement toute la masse de mon atome. Et dans cette toute petite aiguille, j'ai quasiment toute la masse de mon atome. Et très 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 loin, tout là-bas, là aux abords de mon stade, j'ai mes électrons, qui sont eux d'une masse très très petite, ils ont une masse infime, et ils sont aussi d'une taille très très petite, ils font à peu près un millième de la taille de mon aiguille. Donc vous voyez, en fait, un atome c'est essentiellement du vide et encore du vide. Et donc si maintenant je fais le trajet inverse et je me dis, ok, étant donné que mon stade de foot, c'est mon atome, alors qu'est-ce que serait par exemple mon chromosome? Eh bien mon chromosome, ce serait équivalent à la distance entre mon aiguille qui est plantée dans mon stade de foot, par exemple en France, et dans l'espace, les premiers satellites qu'on a dans l'espace, qui sont par exemple les satellites qui font la météo. Donc c'est les satellites qui sont assez proches quand même de la planète Terre. Ils ne sont pas très très éloignés. Mais tout de même, on a dépassé l'atmosphère, tout ça, et on est arrivé dans l'espace. Et cette distance correspondrait à la taille d'un chromosome vis-à-vis de cette aiguille plantée dans le stade de foot.
Et mon grain de sable initial?
Alors mon grain de sable qui fait du coup 1 mm, eh bien 1 mm ça correspondrait à la distance Terre-Lune, plus ou moins.
Qui est de 380 000
kilomètres.
Ouais, 300 000 kilomètres.
Exactement. Donc à peu de choses près, ça correspond à cette distance-là de Terre-Lune. Donc c'est assez hallucinant de se dire que qu'on arrive à ces échelles de grandeur quand on essaye de se mettre au niveau de...
Il y a un véritable univers.
Il y a un véritable univers, en fait, dans une
dans les échelles de taille.
Exactement.
En dessous d'un grain de sable, quoi.
Exactement. En fait, nous, c'est là où ça s'arrête notre connaissance en tant que personne qui voit avec ses yeux. Mais en réalité, voilà, c'est comme s'il y avait tout un univers Terre-Lune pour ces particules. Elles, c'est équivalent à des distances astrophysiques, finalement. Voilà. Donc, tout est question de relativité, finalement, entre nous et les particules.
Alors là, on est sorti de notre abri sous le pin, on est en train de marcher un peu, en forêt. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans sa vie, on décide d'aller explorer ces mondes.
Bon, moi déjà, je viens d'un milieu très défavorisé, où j'étais pas du tout prédisposée à faire ce genre de métier. Dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent dans la recherche ni quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment venu d'une espèce de réalisation quand j'étais petite, vers l'âge où on apprend à lire, quoi, vers 6 ans. Je suis tombée sur des magazines, des revues très illustrées avec des photos de planètes, des photos de galaxies, ce genre de choses. Et ça m'a tout de suite passionnée, ça m'a tout de suite intriguée. Et de fil en aiguille, donc au début j'ai commencé par m'intéresser à l'infiniment grand, justement, les planètes, les galaxies, l'univers. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un monde dans l'autre sens, dans l'infiniment petit.
À quel moment est-ce que vous êtes rendu compte qu'il y avait une autre direction, enfin qu'il y avait la direction inverse de l'infiniment petit?
Bah, un peu plus tard, on va dire, à l'adolescence, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le monde dans l'autre sens. Et j'ai commencé à découvrir la physique quantique. Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'a happée, puisque c'est un monde complètement différent du nôtre. C'est un monde assez absurde, vu avec les yeux de la vie réelle. Et ça m'a tout de suite fascinée. Et je pense que j'ai une espèce de fascination pour tous les mondes qui sortent du monde ordinaire, en fait. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai eu une appétence pour ça. Le monde quantique est hallucinant, il est incroyable. Il y a toute une part un peu d'absurde qu'on n'arrive pas à se représenter. C'est un monde contre-intuitif. Il se passe des choses qui ne peuvent pas se passer dans la vie réelle. Et ça m'a vraiment passionnée de me dire qu'il existait un autre monde que celui que je connaissais. Et que ça venait complètement bousculer toutes mes certitudes. Et je me suis dit, quelque chose qui est capable de bousculer mes certitudes, c'est quelque chose que j'ai envie d'étudier. Parce que ça va me permettre de m'enrichir, ça va me permettre de voir le monde autrement. Et ça m'a vraiment convaincue de faire ce métier-là.
Est-ce que vous vous souvenez, peut-être au cours de vos études, de votre premier vertige?
Justement, le premier vertige, il est relié à cette découverte plus réaliste du monde quantique. Je me rappelle, ça fait presque un espèce de blues, comme des fois de vous réveiller le matin, vous avez un peu une perte de sens dans votre vie. Ça m'a fait un peu ce choc-là, un très gros blues, qui m'a bien sûr pas duré trop longtemps. Et suite à ça, j'ai acquis un espèce d'amour inconditionnel pour la physique fondamentale, donc la physique de la relativité générale et la physique quantique. Je me suis dit, bon, ok, c'est mes deux piliers. C'est les deux choses qui sont absolument fascinantes et complètement aberrantes vis-à-vis de mon quotidien. C'est-à-dire, on ne peut pas voir dans notre quotidien que le temps et l'espace se comportent différemment. On ne peut pas voir dans notre quotidien qu'il y a une superposition de réalité. Et pourtant, ça existe. Et pourtant, c'est là. Et ben voilà, c'est ça qui m'a fondée en tant que chercheuse. Et j'ai à cœur tous les jours d'essayer de comprendre ça, de me l'imaginer, de me le représenter, d'essayer de l'écrire en équation, d'essayer de le mesurer dans des données. Parce que vraiment, ça m'a bouleversée. J'avais un énorme blues en fait. Et qui à la fois, qui peut être, on peut le voir comme un mot négatif, mais en fait ça m'a... C'est comme si tout d'un coup ça a allumé plein de choses dans mon cerveau, ça fait faire des réalisations, ça... Voilà, je conseille à tout le monde d'avoir ce blues. C'était très, très formateur.
Et comment est-ce qu'on transmet ça? Est-ce qu'on peut le transmettre? Est-ce qu'on peut le partager? Et si oui, comment? Et comment ça se passe quand on essaie d'en parler? Vos amis, votre famille, comment ça se passe?
En tant qu'être humain, on est essentiellement constitué de vide, en fait, quand on y pense. Des fois, chez les gens, ça provoque une angoisse de se rendre compte qu'il y a beaucoup de vide dans notre vie. Et c'est vraiment assez absurde qu'on puisse tenir sur Terre les pieds par terre, puisqu'en fait, chaque atome de notre corps est essentiellement du vide. Donc, normalement, on devrait un peu se croiser comme ça. Et en fait, ce qui fait qu'on tient sur Terre, c'est qu'il y a des forces. Et ça, on le dit pas, en fait. Donc, voilà, tout un discours comme ça, j'essaie de rendre les gens un peu abasourdis, qu'ils aient ce blues. Des fois, ça marche. Il y a des gens qui ont des grosses émotions, notamment les enfants, parce qu'ils n'ont pas d'idées préconçues. On commence à leur inculquer quelque chose, et là, tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est pas comme ils pensaient. Et ça les déstabilise un peu. Donc, ils peuvent avoir des grosses émotions. Ça peut être des émotions très positives, avec de l'enthousiasme ou de l'angoisse. Notamment quand on parle du très petit et du vide, ou quand on parle de l'infiniment grand, quand on dit que finalement, la Terre... Mais c'est une micro-poussière dans l'univers et que notre existence est presque négligeable, en fait, à l'échelle de l'univers.
Finalement, est-ce qu'une part de notre conscience n'est pas obligée de chanter cette réalité-là que vous transmettez pour pas se dire tous les jours qu'on est une sorte de tas de particules en train de discuter?
Si, malheureusement, et c'est pour ça aussi que c'est très dur à transmettre. C'est que les gens sont obligés de mettre ça entre parenthèses, même s'ils l'ont su un moment ou s'ils le savent, ils ne peuvent pas en faire quelque chose de prépondérant, d'important dans leur vie, parce que c'est trop difficile de gérer cette connaissance en plus de leur travail, de leurs préoccupations. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle des fois c'est très difficile de pouvoir vendre nos recherches, de les expliquer, de les justifier financièrement pourquoi on les fait. Parce que beaucoup de gens nous disent, mais à quoi ça sert en fait?
Marie, là je vois qu'il se met à pleuvoir. Je vous propose qu'on aille se mettre à l'abri dans la voiture.
Bonne idée.
Narret, à l'échelle 10 puissance moins 10, on est donc à l'échelle de l'atome. Dans quel monde est-ce qu'on rentre à partir de cette échelle-là?
À ces échelles-là, on entre dans le monde quantique. Alors le monde quantique, c'est un monde très spécial parce qu'il n'a pas les mêmes lois que le monde macroscopique, c'est-à-dire le monde de la vie de tous les jours. Et il a des lois très, très intrigantes auxquelles nous ne sommes pas habitués. Par exemple, si... dans la vie de tous les jours, je tape dans un ballon, eh bien, je peux prédire avec beaucoup de certitude où va aller ce ballon, la vitesse qu'il va acquérir, sa trajectoire, ce qui n'est plus le cas dans le monde quantique, puisque je peux prendre en compte, par exemple, les forces de frottement, comment le ballon frotte au sol, je peux prendre en compte la façon dont j'ai tapé dans le ballon, la force avec laquelle j'ai tapé le ballon, et donc je peux prédire une trajectoire, je peux prédire une vitesse. Et tout ça est assez prévisible, et d'ailleurs, on acquiert cette intuition en tant qu'être humain à force d'observer les choses tomber, les choses évoluer. On a une espèce d'intuition qui se crée. Et malheureusement, quand on arrive à ces échelles-là, 10 puissance moins 10 mètres, donc à la taille d'un atome, eh bien là, ce qui se passe n'est pas dans notre intuition de ce qu'on a toujours vécu et toujours vu. Il se passe des choses différentes. Et ces choses qui sont différentes, c'est que, typiquement, si je tape dans un ballon, je ne vais pas être sûre exactement où ce ballon va aller, avec quelle vitesse. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas savoir avec certitude exactement où se trouve l'objet et à quelle vitesse il se trouve, quelle énergie il va acquérir, quelle est l'échelle temporelle dans laquelle il va évoluer. Il y a tout un tas d'incertitudes qui sont là. Et en fait, on appelle ça des superpositions d'état, c'est-à-dire qu'il y a tout un champ de possibilités de où le ballon peut se trouver, à quelle vitesse il peut aller. Et seulement une de ces possibilités va se concrétiser dans la vie réelle une fois que je vais observer ce ballon. Mais tant que je ne l'observe pas, tant que personne ne regarde ce ballon, c'est comme s'il avait toutes les possibilités de faire toutes les vies qu'il est possible pour lui d'avoir de façon superposée. Et souvent, les gens entendent parler de ce paradoxe du chat de Schrödinger, qui est le fait qu'un chat puisse être à la fois mort et vivant dans une boîte ensemble, mais ça décrit assez bien le fait que, à cette échelle-là, les particules peuvent se trouver dans des états complètement différents, c'est-à-dire se trouver à la fois dans un lieu et dans un autre lieu en même temps. Et tout ça est totalement possible et prédictible grâce à des équations. C'est-à-dire que c'est pas complètement une invention folle qui sort d'un cerveau malade, mais c'est vraiment une équation. Ce sont des équations qu'on peut écrire. Et donc, au lieu d'avoir une équation et une seule qui décrit le mouvement d'une particule, on a des lois de probabilité. Et c'est ça qui est assez perturbant, c'est qu'en fait, c'est comme si on jouait un peu au dé. À chaque fois qu'on va observer un événement, par exemple, je vais observer une particule, le moment où je l'observe, c'est comme si c'était le moment où j'avais lancé le dé. À ce moment-là, une des 6 possibilités, par exemple, pour le dé, va se concrétiser, alors que l'instant d'avant, avant de le jeter, il avait tout à fait la possibilité d'être sur une des 6 faces. Là, quand je vais observer ma particule, c'est comme si j'avais tiré le dé et que, tout à coup, c'était tombé sur l'une des faces. Et cette face-là me dit où va être la particule, quelle vitesse elle va avoir, quel comportement elle va avoir.
Est-ce que ça veut dire que le moment où je l'observe, c'est le moment où je l'arrête dans un état ?
Exactement. Et c'est ça qui a été très très perturbant au XXe siècle pour les chercheurs qui travaillaient, les chercheuses qui travaillaient dessus. Parce que finalement, on avait presque l'impression que les particules se sentaient observées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les observait, on faisait une mesure expérimentale, eh bien, elles se figeaient dans une réalité qui, auparavant, n'était pas celle-là. Et donc, quand on ne pose pas une caméra, quand on ne pose pas un appareil instrumental sur cette particule, eh bien, on sait par des constats scientifiques qu'elles sont dans plusieurs états superposés. Et c'est le moment où on allume l'appareil, qu'on commence à détecter cette particule, qu'elle choisit un des états. Et la façon dont ça a été expliqué, parce que c'est assez intriguant et perturbant, c'est qu'en fait, à partir du moment où on fait une mesure, on interagit avec cette particule, c'est-à-dire qu'on lui met de la lumière dessus, où il y a du mouvement autour. Et cette interaction avec cette particule la sort de son état quantique, en fait. C'est comme si elle n'était plus quantique, on appelle ça la décohérence quantique. Toute interaction d'un système quantique avec son environnement le sort de son état quantique et le force à choisir une des réalités. La décohérence quantique, le fait de sortir de cet état quantique, ça a beaucoup d'implications parce que, par exemple, je ne sais pas si les personnes connaissent l'intrication quantique, qui est le fait de pouvoir corréler 2 particules très petites ensemble. C'est-à-dire qu'une particule, si je la touche, je la change de position, l'autre particule va faire exactement pareil comme dans un miroir. Même si les 2 particules sont très éloignées les unes des autres. Par exemple, on peut mettre une particule à Marseille et l'autre à New York. Et par exemple, je vais changer l'orientation d'une particule et l'autre particule qui est à New York va changer également, sans qu'elles aient pu avoir une quelconque communication entre les deux. Et cette intrication quantique, elle n'est possible que dans un état de cohérence quantique, c'est-à-dire quand on n'a pas perturbé le système et qu'il est dans son monde quantique tranquillement. Et ça, c'est des choses qu'on veut utiliser actuellement justement dans des nouvelles technologies d'ordinateurs quantiques, etc. Mais c'est très dur à maîtriser puisqu'il ne faut surtout pas perturber le système, ne pas amener de choses extérieures, de lumière extérieure, d'énergie de l'extérieur, puisque sinon, comme on l'a vu, ça sort de son état quantique. Donc l'état quantique, c'est quelque chose d'assez fascinant et contre-intuitif. Une superposition d'états, des trajectoires qui sont possibles tout en même temps, des chats qui peuvent être morts et vivants en même temps. Et ce qui va figer le résultat, c'est vraiment l'observation, l'interaction avec l'environnement.
Narae, à partir de quelle échelle est-ce qu'il devient impossible de voir les objets ? Et pourquoi ? Et comment est-ce qu'on peut faire pour les regarder ?
l'échelle à laquelle on peut voir des choses avec l'œil humain, ça va jusqu'au dixième de millimètre. En dessous de cette échelle-là, on est obligé de prendre des instruments qui sont un peu comme une extension de notre œil, et qui sont par exemple des microscopes. Donc comme son nom l'indique, on peut aller voir des échelles de l'ordre du micromètre. En dessous, quand on veut arriver à l'échelle d'un atome, eh bien c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser ces microscopes. On est obligé d'utiliser des microscopes avec lesquels, en fait, on va commencer à voir les atomes.
Avec Marie D'Angelo et Marie Hervé à la tour 22, couloir 22-32. Ok. Institut des nanosciences de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Marie Hervé.
Oui.
Bonjour Marie, vous allez
bonjour.
Bien
oui.
Bonjour Marie, je suis l'autre Marie.
Je suis l'autre Marie, Marie D'Angelo.
Enchantée. Alors là, on va descendre sous sol, parce que le laboratoire a besoin d'être isolé de toute source de vibration extérieure.
On est un peu
ouais, au niveau de la scène.
Ouverture des portes.
Vers le laboratoire de notre équipe où on a différents microscopes à effet tunnel. Et on va utiliser l'un d'entre eux pour aller sonder la matière à l'échelle atomique.
Alors, expliquez-moi comment marche et ce que c'est qu'un microscope à effet tunnel.
Oui, un microscope à effet tunnel, en fait, le principe de base est relativement simple, même s'il repose sur la mécanique quantique. Donc, quand on est en mécanique classique, on peut faire passer un courant dans des éléments conducteurs s'ils sont en contact, s'il n'y a pas de coupe-circuit. Là, dans le cas du microscope à effet tunnel, on va approcher une pointe métallique très proche d'une surface. Alors, quand je dis très proche, c'est de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. Et la mécanique quantique nous dit que si on applique un champ électrique entre la pointe et l'échantillon, une différence de potentiel, on peut faire passer des électrons entre la pointe et l'échantillon, même si les deux ne se touchent pas. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et il se trouve que le courant, l'intensité du courant, le nombre d'électrons par unité de temps qui passe entre la pointe et l'échantillon, dépend de la distance entre la pointe et l'échantillon.
Et, Alors, si je comprends bien, on approche une pointe extrêmement, extrêmement fine, qui se termine
idéalement par un atome.
Ok, donc sa pointe termine par un atome. Mm-hmm. On l'approche d'une surface,
oui,
mais sans qu'elle touche cette surface.
Exactement.
Et entre cette surface et cette pointe va circuler un courant, bien que la pointe et la surface ne se touchent pas.
Exactement.
Il y a un courant qui circule.
C'est ça.
Ok.
Et en fait, ce courant, donc la force de ce courant, l'intensité de ce courant, dépend de la distance entre la pointe et la surface. En détectant ce courant, en déplaçant la pointe au-dessus de notre surface qu'on est en train d'étudier, on va être capable d'aller relever, d'aller mesurer, sonder le relief de cette surface. Et comme le courant dépend de façon assez drastique, dramatique, de la distance entre la pointe et la surface, on va pouvoir aller relever les moindres petites variations de hauteur sur la surface. Et donc typiquement aller voir à l'échelle atomique cette surface.
Comme une carte en montagne avec des courbes de niveau quelque part.
C'est exactement ça.
Et c'est comme ça qu'on peut distinguer la constitution de la surface à un niveau atomique.
Exactement. Et c'est parce que ce courant dépend de cette distance qu'on va pouvoir aller vraiment mesurer les moindres aspérités sur la surface, dont les atomes font partie.
Là, c'est le bureau.
Ici, vous rentrez dans le laboratoire de microscopie à effet tunnel.
Donc, c'est une pièce, je dirais, de 50 mètres carrés. Et il y a deux ensembles expérimentaux qui sont en fait avec beaucoup de pièces métalliques. Et il y a beaucoup aussi d'aluminium sur ces chambres-là. Et autour, il y a deux, qu'on appelle postes d'acquisition, deux bureaux sur lesquels on a des ordinateurs qui font l'interface en fait entre nos microscopes et l'utilisateur, nous. C'est-à-dire, c'est eux qui vont nous permettre de visualiser on l'espère, les atomes sur les écrans. Donc nous, on va utiliser a priori l'autre microscope qui s'appelle M3, qui est arrivé dans l'équipe. Et il est arrivé en 2008.
Ah, il y a une vingtaine d'années. Ouais, en fait, c'est un microscope qui est construit au laboratoire, qui a été développé. Ouais. C'est une des spécificités chez nous, c'est que construit nous-mêmes, on est vraiment des microscopistes purs et durs, pas simplement utilisateurs. Et donc, tout cet ensemble ici, il est sous vide, même sous ultra vide. Donc, la pression à l'intérieur, c'est 10 puissance moins 10 millibars. Donc, ça veut dire 10 puissance moins 13 fois la pression atmosphérique. Pour obtenir ces vides-là, on a différents systèmes de pompage. Donc, là, quand on va préparer notre échantillon, je vais démarrer les pompes. Donc on va démarrer d'abord une pompe primaire. La pompe primaire que je viens de démarrer qui va pomper jusqu'à l'arrière de cette deuxième pompe jusqu'à 10 puissance moins 2 millibars. Et donc là je vais aller. Pardon, il faut que. Donc j'ouvre une vanne à l'arrière de cette deuxième pompe.
Là, Marie, on est devant le microscope.
On est devant la manip.
La manipulation, ce que vous appelez la manip, c'est l'installation.
C'est le dispositif expérimental. Tout est en métal, c'est en inox. On a des hublots qui sont des fenêtres à travers lesquelles on va pouvoir visualiser le microscope, notre échantillon. Typiquement, la hauteur, là, ça fait 3 mètres de haut. Donc on a une colonne le long de laquelle on va pouvoir glisser le microscope qui descend dans un cryostat qui est situé en dessous du sol.
Un cryostat
Un dispositif qui nous permet de refroidir le microscope à moins 273 degrés Celsius. Donc ça y est, donc là on vient de finir de déposer notre matériau. Maintenant qu'il est dans microscope à effet tunnel, on va pouvoir le regarder avec le microscope et aller plonger dans sa structure atomique.
Donc là, Marie d'Angelo et Marie Hervé, on vient de s'asseoir à un bureau devant 4 écrans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je vois là?
Notre pointe est en train de scanner là, la surface. Mm-hmm. Il y a un petit point rouge qui se déplace. Donc c'est la pointe qui balaye la surface de gauche à droite, de droite à gauche. Et elle vient sentir le relief de la surface. Cette échelle de couleurs, ça nous montre les terrasses atomiques de l'or. Okay. Donc ça, c'est...
On va du blanc au noir en passant par le bleu quelque part. Quoi.
Voilà. C'est ça.
Okay.
Plus c'est clair et plus c'est haut. Donc on voit que plus c'est sombre et plus on s'enfonce quelque part dans la matière, dans l'échantillon en fait.
Ok, ça serait un peu comme la représentation des fonds sous-marins quoi.
Exactement.
Ok.
Et par-dessus, on voit ici des îlots. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller zoomer dans un de ces îlots pour aller voir les atomes de chlore sur la surface.
Ah, j'ai très envie que vous zoomiez.
Et donc là, et on regarde des échelles, là typiquement, la taille de cette image, c'est 300 nanomètres.
Ça fait 300 milliardièmes de mètre.
Donc 300 fois 10 puissance
moins 9 mètres.
Moins 9, ok. Et on va zoomer au fur et à mesure, c'est ça? Donc là, Marie, on a changé d'échelle, c'est-à-dire que vous avez relancé un balayage de scan de cette fameuse pointe et vous êtes passé à un carré de 50 nanomètres par 50 nanomètres.
C'est ça. Donc là, on va commencer à pouvoir sentir les atomes sur la surface. Donc là, il ne va pas falloir parler trop fort parce que risque de créer des vibrations qui vont perturber l'aiguille qui balaye la surface. Donc là, on commence à avoir des petites boules. Là. Je vais me rapprocher encore un peu plus. 100 millivolts, 50 millivolts.
Donc là, vous êtes en train de baisser la tension qui se trouve dans la pointe pour pouvoir rapprocher la pointe. Okay.
Là, on commence à voir peut-être une petite période ici. On voit des lignes dans cette diagonale ici. Donc là, je vais zoomer un peu plus.
Et on est là sur un carré de
30 nanomètres par 30 nanomètres. Et donc là, on commence à voir des lignes très prononcées dans une direction, une diagonale. Là, maintenant, depuis que je suis en train de parler, on voit d'autres lignes qui sont en fait le bruit que je provoque.
Horizontales qu'on voit, c'est le bruit.
Ouais.
D'accord, donc il faut vraiment qu'on parle tout bas. Quoi. En fait, ce qu'on est en train de regarder me fait un peu penser à une sorte de... comme une vue satellite. Très brouillée, enfin, une sorte de carte, quoi.
Ouais. Là, ici, je me mets dans une zone... entre deux lignes là, elle fait
732.
À peu près 700 picomètres.
On regarde quelque chose sur un plan.
Oui, sur un plan.
C'est une grille trois lignes, trois fils tendus quelque part, dans trois directions.
Trois directions. Et donc chaque rond clair ici.
Chaque petit rond blanc.
C'est un atome.
Là, ce qu'on va faire, Marie, c'est qu'on va zoomer encore plus et vous allez me dire à combien est-ce qu'on va zoomer là.
On va zoomer à 10 nanomètres.
À 10 nanomètres, et le temps de la mesure, en tout cas une partie de la mesure, il faut qu'on reste complètement silencieux.
Pour pouvoir vraiment voir proprement le réseau atomique et ne pas perturber notre aiguille qui se déplace sur la surface.
Ok.
Donc là, on commence à voir le réseau hexagonal. Infinité de petits losanges. Chacune de ces protubérances blanches ici, c'est les atomes.
Je commence à distinguer comme une sorte de carré dans lequel il y aurait une sorte de piscine à balles, quoi.
En fait, je trouve que l'analogie de la piscine à balles, c'est une bonne image, parce qu'en fait, si vous prenez des balles et que vous essayez de les compacter, vous les mettez juste sur un étage, spontanément, elles vont adopter cette configuration-là, hexagonale. C'est-à-dire que vous allez avoir vos balles qui sont comme si elles étaient au sommet d'un hexagone et au centre de l'hexagone. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir.
On a vraiment la sensation de percevoir, parce que ce n'est pas une image qui est très nette, une image un peu basse résolution d'une image un peu infrarouge, enfin voilà, quelque chose de assez fantomatique, quoi. Donc c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est assez hypnotisant, quoi.
Au-delà de l'atome, on ne peut plus faire d'image, on n'a aucune image qui existe.
Il n'y a plus de lumière.
En fait, c'est pas tant qu'il n'y a plus de lumière qui est émise, c'est plutôt qu'il n'y a pas de lumière suffisamment petite pour aller voir l'objet qu'on cherche à voir.
Puisque la lumière a une taille.
Et oui. En fait, la lumière, c'est ce qu'on appelle une onde. Une onde comme quand vous lancez un caillou dans une mare. Mmh. Vous voyez que ça fait des cercles concentriques qui s'éloignent les uns des autres. Et en fait, si vous regardez la distance entre deux cercles concentriques, ça va vous donner une longueur qu'on appelle une longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, elle va vraiment caractériser la lumière et notamment toutes ses propriétés comme sa couleur, son énergie. Et quelles propriétés, notamment pour entrer dans la matière, elle a. Pour vous donner un ordre de grandeur, la lumière bleue qu'on voit, elle a une longueur d'onde qui est de 400 nanomètres. Donc notamment, les couleurs ont une taille. Chaque couleur a sa taille, le vert a sa taille. Et on peut aller de plus en plus petit. Et à un moment donné, ça sort de notre champ visuel. C'est-à-dire que nous, on n'est plus capable de voir ces couleurs-là. Et si on continue de réduire l'espace entre les cercles concentriques, on arrive à des tailles si petites que ça peut traverser la matière et ensuite arriver jusqu'à ces atomes. Et c'est ça qui permet d'observer les atomes. Mais au-delà, on n'arrive pas à faire des ondes qui soient si petites qu'elle puisse permettre de voir un électron tout seul ou un quark, par exemple.
En somme, la lumière est trop grande dans l'échelle de mesure par rapport à l'échelle de l'atome et à l'échelle des particules.
La lumière que nous, on s'est fabriquée, puisque la lumière en soi peut atteindre des longueurs d'onde plus petites. Mais nous, avec nos technologies, on n'est pas capable de faire une lumière qui nous permette d'observer directement...
qui éclaire cette matière.
Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est l'observer indirectement. On observe indirectement l'effet de ces petites particules sur leur environnement.
On observe leurs traces.
Et voilà, on observe leurs traces, leur interaction avec le système.
Naret, si on reprend les échelles de mesure, on est à 10 puissance moins 10 l'atome. L'atome est constitué d'un nuage d'électrons. Si on passe ce nuage d'électrons, on atterrit dans du vide pendant plusieurs échelles de mesure. Puis, à 10 puissance moins 15, on arrive sur le noyau de l'atome. Puis ce noyau de l'atome, il va être constitué de protons et de neutrons. Et alors, dans ces protons et dans ces neutrons, qu'est-ce qu'il y a?
Ah, donc à l'intérieur des protons et des neutrons, il y a encore quelque chose qu'on appelle des quarks. Deux sortes de quarks. Des quarks qu'on appelle U, donc up pour l'anglais qui veut dire haut, et down, D, qui veut dire bas. Le problème, c'est que si on commence à accélérer cet atome, qu'on le fait avoir des vitesses très fortes et une énergie du coup très grande, là, les choses se complexifient. En réalité, à l'intérieur du noyau, et donc à l'intérieur des protons et des neutrons, on ne va plus trouver deux quarks, deux sortes de quarks, mais beaucoup plus de quarks. Et il va y avoir ce qu'on appelle une mer de quarks. Et toutes ces possibilités de quarks, en fait, existent, coexistent, comme une espèce de magma, comme ça. Et lorsqu'on fait des collisions, notamment, quand on cogne...
Comme au CERN.
Comme au CERN, exactement. Quand on cogne un proton contre un autre proton, c'est qu'on n'est pas en train de cogner juste un proton contre un proton, c'est qu'on est en train de cogner tous les quarks qui sont dans un des protons avec tous les quarks qui sont dans l'autre proton. Finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine au premier abord, que dès que la particule a de l'énergie, dès que l'atome a de l'énergie ou le proton a de l'énergie, alors il y a beaucoup plus de constituants que ce qu'on voit. Voilà.
Donc il y a ces particules, mais il y a aussi des forces.
Oui. Donc il y a aussi des forces, et ces forces, elles sont au nombre de 4. D'abord la force électromagnétique. Donc c'est quoi? C'est la force qui permet l'attraction ou le fait que des particules se repoussent en fonction de leur charge, positive ou négative. Et il y a aussi un aspect magnétique, c'est-à-dire c'est ça qui peut expliquer les phénomènes de champ magnétique.
Quand je prends deux aimants et que je les mets l'un contre l'autre, qui se repoussent ou qui s'attirent, ce qui s'exprime, c'est la force électromagnétique.
Exactement. La force électromagnétique peut agir à assez grande distance, donc au-delà de l'atome. Par contre, quand on arrive aux deux autres forces que je vais citer, on arrive vraiment au niveau de l'atome, voire subatomique, c'est-à-dire dans le noyau de l'atome. Et ce sont les forces fortes et faibles. Alors forte parce qu'elle est plus forte que la force électromagnétique, et faible parce qu'elle est plus faible. La force forte, elle est responsable de la cohésion des noyaux. C'est celle qui permet de faire en sorte que des protons qui sont chargés tous positivement ne se repoussent pas et continuent de s'attirer dans un même noyau. Sinon, le noyau éclaterait.
C'est ce qui crée la cohésion du noyau de l'atome qui fait que ce noyau tient.
Exactement. Sinon, par simple force électromagnétique, des protons de même charge devraient normalement se repousser.
Et on vivrait dans une sorte de soupe.
Voilà, il n'y aurait pas d'atome. En fait, il n'y aurait pas de noyau. Et la force faible, elle est responsable de la radioactivité.
Donc ça... C'est ce qui est en action dans une centrale nucléaire?
Exactement. Donc c'est ce qui est complètement à l'œuvre dans le Soleil, et c'est ce qui donne l'énergie que nous recevons du Soleil, c'est cette force-là. Cette force, elle émet certains types de particules qui peuvent être néfastes, nocives pour la santé, bien sûr, mais elle crée aussi une énergie assez intense.
Et la quatrième force?
Cette quatrième force qui est la gravité, en réalité, en physique des particules, on dit que c'est une force parce que ça fait partie de la façon dont on décrit le monde avec justement la physique de Newton, avec la pomme qui tombe, donc on a besoin de cette force pour décrire le monde. Mais en réalité, quand on va à des plus grandes échelles et qu'on va à l'échelle de l'univers, du cosmos, là on se rend compte que ce qu'on appelle une force n'est pas vraiment une force, mais plutôt une déformation de l'espace-temps. Et ça, ce sera expliqué beaucoup plus en détail dans l'épisode 3.
Alors, Nara, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui est plus petit que petit, que petit, que petit? Et jusqu'où on peut aller? Est-ce que ça s'arrête? Ou est-ce que ça ne s'arrête pas?
En fait, il n'y a pas vraiment de conclusion définitive à cette question. Les scientifiques actuels n'ont pas de réponse à ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la chose la plus petite qui, théoriquement, devrait exister. On ne sait pas. D'ailleurs, je vais même dire quelque chose qui peut être en contradiction, peut-être avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais quand tout à l'heure on disait qu'un électron faisait 10 puissance moins 18 mètres, eh bien, en fait, ça, c'est une simplification. En réalité, on n'a jamais pu mesurer la vraie taille d'un électron et la vraie taille d'un quark, tout simplement parce qu'on n'a pas la technologie. Et ce 10 puissance moins 18 mètres qu'on énonce, c'est finalement la limite de capacité de précision de nos instruments. Et il se pourrait que ces particules élémentaires soient encore plus petites que cela. Et il se pourrait qu'elles soient peut-être des millions, des milliards de fois plus petites que ça. Sauf que nous, on ne le sait pas. Nous, on sait juste que notre instrument, il sature à telle précision. Et donc, bah, au minimum, ces particules font cette taille-là. Mais ça peut être, il y a toute une éventualité que ces particules soient beaucoup plus petites. D'ailleurs, dans notre théorie à nous, qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, on considère ces objets comme infiniment petits. On dit que c'est comme des points. Et toute la théorie qu'on a construite autour de ça, c'est en considérant que les particules élémentaires sont comme des points de taille infiniment petite. Alors du coup, pour répondre autrement à la question, des gens pensent qu'il peut y avoir une longueur minimale, qu'on appelle la longueur de Planck, qui serait l'ultime distance qu'on puisse accéder, qui fait, je crois, 10 puissance moins 34 ou 35 mètres. Et cette longueur, en fait, elle a été construite sur la base de la constante de Planck, qui a une valeur très précise. Mais cette longueur de Planck, certaines personnes disent que c'est la limite à laquelle gravitation et physique quantique peuvent s'allier. C'est à cette échelle-là que finalement on peut commencer à unir ces deux visions du monde. Et j'irais même jusqu'à dire que finalement, est-ce que la taille d'une particule a vraiment un sens ? Puisqu'en fait, un autre principe de la physique quantique, c'était que les objets élémentaires, donc les objets quantiques, sont à la fois des ondes et des particules. Toute particule, quand on se retrouve au niveau quantique, est à la fois cette propagation dans l'espace d'une perturbation, mais aussi un objet ponctuel. C'est la double vision, donc c'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Et on peut décrire toute la physique quantique à travers cette double vision. Et ça permet finalement d'expliquer des contradictions qu'on voyait dans certaines expériences où on avait l'impression qu'à la fois les objets étaient partout et à la fois juste à un endroit. Et donc ça peut s'expliquer par le fait que la particule, elle est à la fois partout parce que c'est une onde qui se propage. Et donc voilà, c'est un grand questionnement, presque philosophique finalement, de le savoir.
Si je devais résumer, à partir du moment où on parle de localité, on s'appuie sur la relation qu'on a, nous, humains, par rapport à l'espace et au temps, c'est-à-dire une chose est quelque part à un certain moment. À partir du moment où on tombe dans une échelle où l'espace et le temps ne fonctionnent plus de la même manière, on ne peut plus parler vraiment de localité. Ça n'a plus vraiment de sens.
Exactement.
Donc c'est un peu partout, un peu tout le temps.
Exactement.
Et donc, il n'est même plus question de parler de taille, puisque une taille, ça voudrait dire que ça commence à un endroit et que ça s'arrête à un autre. Là, ça ne commencerait partout, à la fois, et ça terminerait à la fois partout et tout le temps.
Exactement. Et c'est ça qui est perturbant dans la physique quantique, c'est cette indécision, le fait qu'on ne sache pas exactement où sont les objets, le fait que ce soit des ondes. On ne peut pas dire à quel endroit commence une onde et à quel endroit elle termine.
Et ce qui nous perturbe beaucoup, sans doute peut-être aussi, c'est que on est fait, nous, d'un début et d'une fin.
Oui, exactement, parce qu'on est dans un monde voilà, macroscopique, un monde plus grand, dans lequel il n'y a plus de physique quantique, on est dans la décohérence quantique. Et ça, cela implique des lois qui sont complètement différentes, qui sont un peu comme une moyenne de toutes les lois quantiques. C'est comme si on avait pris toutes les probabilités, qu'on avait un peu moyenné tout ça. Et on arrive à une réalisation de la réalité, qui est celle que l'on connaît, et qui finalement ne nous permet pas du tout de se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il y a tout un tas de particules, tout un tas d'atomes et d'électrons et de quarks qui ne sont pas vraiment définis localement, qui ne sont pas définis dans leur vitesse, dans leur énergie, dans leur position, qui le seraient si on se mettait à les observer, mais on ne les observe pas, donc nous sommes faits d'un espèce de tas de probabilités qui, tout ensemble, créent ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on a quand même une réalisation de nous qui est unique, mais qui est la superposition de milliards et de milliards et de milliards de particules qui sont toutes indéfinies localement.
Et alors, à quoi ça sert tout ça?
La question piège. Alors, à quoi ça sert? Moi, je reviendrai presque à une vision philosophique en fait de la science. J'ai l'impression qu'on a tendance des fois un peu à séparer la philosophie et la science. J'ai l'impression que la raison pour laquelle la science s'est beaucoup développée et pourquoi notre humanité est une humanité intelligente qui a inventé beaucoup d'instruments, beaucoup de technologies, on est quand même une civilisation évoluée, c'est parce que justement il y avait beaucoup de philosophie au cœur des pensées des hommes, c'est-à-dire l'homme regarde le ciel et se demande mais qu'est-ce que c'est que ça, où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je suis dans cet espace, à quoi je sers, quel est mon rôle dans cet univers, et de se poser toutes ces questions, qui sont philosophiques du coup, à demander de faire des expériences, d'essayer de répondre à ces questions, et ça a développé un esprit scientifique en fait. Et d'ailleurs, on dit souvent que voilà, les Grecs, les philosophes grecs étaient aussi physiciens, scientifiques, et ça a très longtemps perduré, cette double aspect d'être à la fois philosophe et mathématicien, philosophe et astronome, etc. Si on perd de vue cet aspect-là, et qu'on rentre plutôt dans un aspect mercantile de qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que je vais gagner moi dans tout ça, eh ben on perd complètement l'intérêt de la science finalement pour moi. La science n'a pas à être utile en termes monétaires, elle n'a pas à apporter des gains. Pour moi, elle est là pour répondre à des questions philosophiques que les êtres humains se posent depuis la nuit des temps.
Merci Naré.
Plaisir.
C'était Au-delà de l'atome, l'infiniment petit, du grain de sable au monde quantique, de Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian, avec Naré Lorenzo Martinez, Marie Hervé et Marie D'Angelo. Musique originale, Tony Ayer. Mixage, Éric Boisset. Chargé de programmation, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Merci à Sophie Queiroz, Olivier Martineau et Massimiliano Marangolo.